Moi, je suis Lydia Hickman, c'est mon nom de famille. Je travaille pour une boîte qui fait l'impression des livres scolaires et je suis la General Manager ici pour notre bureau de l'Afrique de l'Est qui est basé à Kigali. Et pour d'où je viens, je viens des États-Unis, de la Virginie, mais ça fait 8 ans maintenant que j'habite à l'étranger pour moi. Donc, je suis venue à Kigali de Dakar, où j'étais pendant 4 ans. Et c'est là où j'ai vécu le plus depuis que je suis adulte.
Ça a été quoi ton parcours?
Donc, j'ai fait mon bachelor aux États-Unis en sciences politiques. Juste après, je pense 2 mois après la graduation, je suis partie en Chine et j'ai vécu à Shanghai pendant 2 ans. J'avais étudié le mandarin un peu au lycée, un peu à la fac aussi. Donc, j'avais. En fait, je ne savais pas trop. Je venais de changer d'avis par rapport à ce que je voulais faire et j'avais besoin de temps pour réfléchir. Du coup, ça me semblait être une bonne option pour quand même approfondir un peu mes connaissances du chinois, du mandarin. Et en même temps, j'enseignais anglais. Donc, j'ai fait ça pendant 2 ans. Après ça, je suis partie à Paris. J'ai été assistante de langue. Un programme qui invite les anglophones, enfin pas que les anglophones je pense, les anglophones, les hispanophones, ça se dit,
Ouais.
et les Allemands à venir instruire leur langue. Et ensuite, des Français partent dans nos pays pour enseigner le français dans des lycées, collèges, écoles maternelles. Donc j'ai fait ça à Épinay-sur-Seine, dans deux lycées, les deux lycées d'Épinay. C'était super pendant 1 an. Et après, j'ai commencé un master à Paris, à Descartes. Et dans le cadre de master, on devait partir sur le terrain, soit pour un stage ou soit pour faire des recherches. Donc moi, je suis partie entre guillemets pour faire un stage, c'était ça à la base. Et je rejoins un jeune Sénégalais qui avait une idée d'un projet en tête qu'il voulait faire. Et finalement, ce qui était censé être un stage est devenu carrément mon ONG avec lui et avec les autres. On a créé une ONG. On a créé un projet qu'on a commencé au Sénégal. C'était un concours universitaire télévisé où les jeunes étudiants proposaient des solutions aux défis sociaux de l'Afrique. Et puis, on l'a amené dans d'autres pays. Voilà. Donc, j'ai fait ça au Sénégal pendant quelques ans. J'ai fait aussi un peu de recrutement pour une boîte aux States. Et puis, on m'a contacté en juillet pour ce poste, mais à la base pour rester à Dakar. Et puis, entre-temps, ils ont eu besoin. Ici aussi, donc on m'a proposé de venir à Kigali et me voilà.
Ah ouais, et donc à la base, tu voulais faire quoi?
À la base, j'étais vraiment intéressée par la politique et ça évoluait petit à petit. Donc à la base, c'était plutôt la politique vraiment domestique aux États-Unis. Après, j'ai eu ma première expérience à l'étranger après la première année à la fac en Chine. C'était une expérience qui m'a vraiment marquée. On a fait un volontariat dans des écoles rurales. Pour les enfants d'immigrants qui n'avaient pas la possibilité, parce qu'ils n'étaient pas résidents de ces villes, d'aller dans les écoles de la ville. Et c'est un peu cliché, mais c'était vraiment le moment où tu te rends compte que, voilà quoi, ça va pas, en fait. Et je savais ça par rapport aux États-Unis, parce que moi, je venais pas d'un background rich du tout, mais voir qu'il y avait ces mêmes problèmes partout dans le monde, c'était un peu le premier déclic pour moi. Donc j'ai commencé à me réorienter vers les relations internationales. Ensuite, j'ai fait un stage après ma troisième année, donc juste avant ma graduation, au Congo, avec l'ambassade américaine. Donc c'était vraiment, enfin, c'est là où on fait les relations internationales, justement. Et j'ai pas du tout aimé. L'expérience était top, j'ai adoré le Congo, j'ai adoré le stage, mais je me suis rendu compte que je pourrais pas faire ça. Parce que par principe, la politique, il faut s'occuper de son pays. Il faut toujours favoriser ça en premier. Et après, si ça peut produire des effets positifs pour les autres, c'est bien. Mais c'est pas ça la priorité. Et du coup, par rapport à ce que je voyais dans le monde, que j'avais envie de toucher un peu. Je ne voyais pas plus la politique comme le chemin pour y arriver. Donc, c'est un peu ça qui a réorienté tout.
Donc là, tu habites à Kigali, tu habites seule en colocation.
Donc, je suis en colocation avec une. En fait, je viens d'apprendre ce mot en français. Est-ce que c'est galloise? Pays de Galles?
Ouais.
Au Royaume-Uni?
Ouais.
Voilà.
Ah oui.
Avec une galloise qui vient d'arriver aussi. et que j'ai connu à travers quelqu'un d'autre que j'ai connu en ligne, voilà.
Ok. Maintenant, par rapport à ton enfance, quelles ont été les références culturelles, que ce soit au niveau des films, de la musique, des artistes
Pendant
visuels?
mon enfance,
Ouais.
bah moi, je suis super super fan des années 2000. Je sais que tout le monde adore les années 90, mais moi, c'est vraiment les années 2000. Pour moi, bah j'ai fait le collège pendant ces années, j'ai fait le lycée pendant ces années, donc c'est ça qui me touche beaucoup. Donc référence, bah j'étais très fan de la Disney Channel déjà. Je suivais vraiment toutes les émissions sur Disney Channel. Donc à l'époque, il y avait quoi? Il y avait Lizzie McGuire, Even Stevens, enfin Proud Family, toutes ces émissions qui passaient là. J'étais aussi très fan bah, de Hilary Duff, donc l'actrice principale de Lizzie McGuire. J'aimais beaucoup la pop et j'aime encore beaucoup la pop. De vraiment toutes les pop stars, je pense qu'à un moment, je les ai aimées. Britney Spears, Christina Aguilera, Destiny's Child, après Beyoncé. Quoi encore en termes de films J'étais pas très film parce que mon père il nous forçait à regarder ses films. Et du coup, bah, c'était des vieux films qui m'intéressaient pas. J'avais envie de regarder des trucs plus fun et donc il me poussait à faire ça. Mais j'étais à fond vraiment dans la Disney Channel et dans MTV. Toutes les émissions qui passaient par MTV, Room Raiders et Next, les émissions sur enfin, les concepts de date et de blind date, ça j'étais vraiment très fan de ça.
Quels sont les héros de ta génération?
Tout d'abord, Rihanna. Écoute, je pense que ce qui est intéressant, surtout maintenant, c'est l'effet des réseaux sociaux et comment on arrive à avoir des héros qui n'ont pas le parcours typique. C'est-à-dire, c'est, ça n'a pas, ils n'ont pas été des hommes politiques ou même des actrices ou quoi que ce soit. Ils ont juste su utiliser leur plateforme pour présenter des idées qui nous touchent tous. Du coup, bah, y a, pour moi, il y a vraiment de personnes qui ont de petites followings, peut-être des 30 000 ou enfin, jusqu'à 100 000 sur Twitter et sur Instagram, mais que je suis beaucoup par rapport à leurs idéologies des qualités des gens, par rapport au mouvement de Black Lives Matter, les choses comme ça, quand on voit les différents mouvements qu'ils ont, enfin, à chaque fois qu'il y a une crise ou qu'il y a un problème dans le monde, comment on se réunit sur les réseaux sociaux. Donc je dirais bah, les réseaux sociaux, justement. C'est ça nos héros en ce moment.
C'était quoi tes rêves d'enfant?
Je me souviens d'un moment où je voulais être pom-pom girl pour les Dallas Cowboys, une équipe de football américaine. Ça, c'était vraiment quand j'étais tout petit. Après, pendant très longtemps, je voulais être présidente des États-Unis. Et je pense que c'est pour ça que j'ai été le plus connue. Jusqu'à ce que pendant, même encore il y a quelques ans, les gens me demandaient encore ça va le chemin parce que ils savaient que j'étais très focus là-dessus.
Pourquoi?
J'avais et j'ai encore des idées et j'étais convaincue à l'époque que c'était par ce biais-là que je pouvais effectuer les changements que je voulais voir. Et donc j'étais juste très très déterminée à avoir ce poste et puis pouvoir changer le monde. C'est pour ça que je dis c'est des clichés, mais c'est des clichés pour des raisons, parce que beaucoup de gens s'identifient. En tout cas, moi, j'y m'y identifie.
C'était quoi tes craintes?
De ne pas réussir, de ne pas avoir beaucoup d'argent. Non, je pense, enfin, je rigole, mais c'était un peu la vérité. C'était de, et c'est encore de galérer pendant toute ma vie. Je pense que bah, quand je regarde ma mère, par exemple, qui a toujours eu plusieurs boulots en même temps, jusqu'à en avoir trois, pendant vraiment une longue période de notre enfance, mon frère et moi, et de se rendre compte, enfin, je pense qu'à l'époque, je ne pouvais pas articuler ça comme je peux maintenant, mais ma compréhension des choses maintenant, c'est que bah, la situation économique du monde, le système économique du monde fait de sorte que bah, tu peux beaucoup bosser et ça veut rien dire en fait. Ça ne garantit pas d'être stable financièrement. Et donc du coup, je pense qu'en tant qu'enfant, je voyais ça en ma mère, même si je ne comprenais pas les enjeux, les facteurs, les obstacles et tout. Je voyais juste quelqu'un bah, qui se levait tous les jours et qui travaillait littéralement tous les jours, toute la journée. Et que bah, nous, nos progrès, c'était vraiment petit à petit. Et donc voir quelqu'un donner autant d'efforts pour après ne pas être à un niveau où on arrivait vraiment à être confortable jusqu'à ce qu'elle pouvait arrêter, tu vois, c'était ma crainte et c'est ma crainte encore, ça me marque beaucoup. Parce que je pense qu'on a cette idée que bah, la richesse se mérite et que bah, si on est riche, c'est parce qu'on l'a mérité. Tu vois, et c'est vraiment quand on commence à déconstruire cela qu'on se rend compte que bah, non, il y a les questions du privilège, il y a les questions des avantages des uns et des autres. Et donc, du coup, on se rend compte que bah, on pourrait être une bonne personne qui se lève tous les jours et qui se donne à fond, mais vraiment à fond, une personne intelligente et après ne pas arriver à avoir cette mobilité enfin, économique et sociale. Bah, c'est ma plus grande crainte, justement.
Et du coup, comment ça se manifeste dans ta vie de tous les jours de combattre cette crainte?
Bah, déjà dans mon côté militant, où je fatigue les gens toujours avec des discours. Dès que je vois un post sur Instagram ou Twitter, je suis à fond à expliquer, bah non, c'est pas comme ça le monde. Enfin, au-delà des conversations, des discussions avec mon entourage et les gens que je rencontre, ça se manifeste aussi, je pense, dans mes réflexions. Tu vois, à un moment, tu deviens très focus sur comment sortir de là, comment comprendre le système tel qu'il est pour pouvoir le réussir, pour après ensuite le modifier. Parce que tu te rends compte que bah, soit on le détruit tous ensemble, mais sinon tu es obligé de le faire avec quelque part. Tu peux résister, mais si tu résistes, tu acceptes juste que bah, tu vas rester là où tu es, quoi. Et donc je pense que bah, c'est ce dilemme de tous les jours de OK, je vais avoir plus, mais je sais que c'est un problème le fait de devenir obsédé par cela, parce que la réalité, surtout quand on voit des pays en Europe, et évidemment ce n'est pas parfait, mais juste par rapport aux États-Unis, tu te rends compte que les salaires sont plus bas par rapport à chez nous. Quelqu'un qui a un diplôme en France et qui vient d'avoir son diplôme et qui a un job qui donne 2 000 et quelques euros est très contente, alors que c'est rien du tout aux States, mais tu vois vraiment rien du tout. Mais parce qu'il y a certaines choses qui sont en place, tu vois, qui sont moins chères, l'éducation est moins chère, la santé est moins chère, etc. Et donc, ouais, tu te rends compte que ce n'est pas bien ce système, mais que tu es un peu piégé là-dedans tant qu'on ne change pas tous ensemble. Donc, je dirais que c'est comme ça se manifeste un dilemme, un combat interne tous les jours entre y participer et. Enfin, se résister de ça.
C'est quoi ta définition d'être adulte?
Comment tu appelles ça? Là où on place les verres?
Ah, ça?
Ouais.
Un sous-verre, je
Sous-verre,
crois.
voilà. Déjà avoir des sous-verres. Je suis vraiment très contente de moi-même quand j'ai acheté des sous-verres. Je me suis sentie comme adulte. Et même quand je te les donnais tout à l'heure, j'ai fait en interne, je me suis dit, elle me prend comme quelqu'un qui a les sous-verres alors que non. Ça fait à peine 2 semaines, mais je fais genre. Écoute, je pense que mon idée d'adulte, ça a beaucoup, beaucoup changé avec le temps. Tu deviens adulte et tu te rends compte que ce n'est rien de ce que tu pensais. Parce que mes parents m'ont eu très jeune. Du coup, bah, j'aurai 30 ans cette année. C'est un peu le concept, je pense. Et je me souviens très bien de quand mes parents avaient 30 ans. Et je les croyais vieux. Alors que moi, non, je ne suis pas vieille. Hein. Mais je pense bah, c'est un peu comme enfant, c'est être humain, c'est juste s'adapter à la situation qui est en face de toi. C'est défini par la société, donc c'est différent dans différents endroits. Chez nous, c'est sortir de la maison, c'est avoir ton propre appartement ou éventuellement avoir ta maison. Voilà, c'est être indépendant, c'est s'occuper de soi-même financièrement. Alors que ici, enfin, je vais parler plutôt de Dakar parce que je maîtrise pas Kigali, bah, c'est se marier. Et ça vient avant les autres facteurs. On va quitter la maison quand on s'est marié, justement. Alors qu'aux États-Unis, c'est l'inverse. On quitte d'abord et après, on voit ces choses-là. Donc, je me sens un peu perdue dans tout ça parce que je m'identifie avec certains aspects dans des différents pays et ça se modifie de plus en plus que je vit dans des différentes cultures. Je peux pas dire concrètement c'est quoi être adulte. Pour moi, j'ai des objectifs pour ma vie et j'essaie de les atteindre, c'est tout.
Et là, est-ce que tu arrives à te considérer comme adulte au-delà des dessous de verre?
Si, quand même, parce que je me souviens de plein de choses que ma mère faisait pour moi, que je dois faire pour moi-même. Quand je dois aller chez le médecin, vraiment, si j'appelle pas, en fait, c'est juste que bah, j'ai pas un rendez-vous et j'y vais pas. Alors que ce genre de choses, bah, c'était systématique chez elle. Donc oui, il y a plein de choses, enfin, que j'ai pas envie de faire, que je dois faire. Ouais, c'est ça être adulte en fait. Avoir plein de choses que tu dois faire alors que tu n'as pas envie et tu les fais quand même parce que personne ne verra pour toi.
T'auras quand, 30 ans?
En août, le 21 août.
Okay. Comment tu vis le fait d'avoir bientôt 30 ans?
C'est une bonne question parce que j'y pense beaucoup. Je pense que nous, les gens de cet âge, on y pense beaucoup parce qu'on fait tout un scandale là-dessus. Il y a une chose à laquelle je pense beaucoup, c'est les enfants. J'explique ce que je veux dire par là. Il y a quelques ans, enfin, ça a commencé quand j'avais 25 ans. Au Sénégal, je travaillais avec une autre fille, si je peux dire. On se considère toujours comme fille, qui avait 30 ou 31, 32, je sais pas. Et je me souviens qu'un jour, on est allé dîner ensemble et elle m'a dit, quand tu as 30 ans, quelque chose change et tu deviens obsédé par l'idée d'avoir les enfants. Et elle dit, ça sort de nulle part, tu peux être quelqu'un qui n'aime même pas les enfants, mais à 30 ans, ça t'arrive. Et elle insistait toujours sur ça, et puis j'ai entendu d'autres personnes dire la même chose. Et c'était bizarre parce qu'elles disaient tous 30 ans. Donc je me demandais, c'est quoi qui va se passer à 30 ans? Du coup, je suis très en alerte par rapport à ça. Et j'essaie de voir, est-ce que ça se manifeste? Je dirais que, bah, je souris un peu plus quand je vois les enfants, alors qu'avant, je ne souriais pas. Mais oui, c'est la question qui m'occupe en ce moment. Je me demande, est-ce que ce jour-là, est-ce que c'est le jour même, est-ce que c'est une semaine après, est-ce que, enfin, pendant que j'ai 30 ans, je deviendrai obsédée par avoir des enfants? Parce que je suis tellement loin de ça en ce moment que je ne peux pas l'imaginer.
T'as encore tes parents, tes deux parents.
Oui.
Oui. Est-ce qu'ils te prennent au sérieux? Est-ce qu'ils te voient comme une adulte?
Ouais. Ils me prennent au sérieux. Je pense que déjà vivre hors de la maison et puis à l'étranger, je pense qu'ils n'avaient pas trop le choix. Je pense que ma mère, elle y est arrivée plus vite que mon père. Mais il y avait des moments, par exemple, où je rentrais. Je me souviens un été où je rentrais aux États-Unis et je devais aller à Washington. Donc il y a 2 heures de route de chez moi pour faire l'interview pour avoir un visa pour je ne sais plus où. Et je me souviens la veille, mon père qui vient me dire oui, couche-toi, et après il faut que tu te lèves à telle heure pour quitter à telle heure avec ton frère pour prendre la route. Je pense là j'avais peut-être 24. 20, ouais, 24. Et bah, c'était hallucinant quoi, parce que je me disais, mais attends. J'ai pris mes deux valises toute seule. Je suis allée en Chine où je connaissais personne. J'ai vécu là-bas pendant 2 ans. Je suis partie en France. Et tu penses que vraiment me réveiller pour aller à un entretien de visa, c'est ça qui va être difficile dans ma vie. Mais depuis, ouais, carrément, ils me prennent pour un adulte.
Et du coup, tu te souviens de ce qu'ils faisaient quand ils avaient 30 ans?
Bah oui, bah, ils avaient 2 enfants, moi et mon frère. Je pense que bah, quand ils avaient 30 ans, moi, j'avais 7. Et mon frère 5, ouais, 5 ou 6. Du coup, ils avaient la vie des parents, bah, et surtout des parents qui avaient besoin de bosser pour pouvoir nourrir leurs enfants, etc. En tout cas, c'est sûr qu'on n'a pas du tout la même vie. Je sais que bah, ils ne faisaient pas ce que je fais. Je pense que le fait de ne pas avoir des enfants, c'est moins d'obligations. Du coup, j'ai plus la possibilité de faire ce que j'ai envie de faire.
Comment tu vois l'avenir du monde?
Question très lourde. Réellement, comment je pense que ça va être? Je ne sais pas parce que je pense qu'on a la possibilité soit d'être vraiment, comment dire ça, politiquement correct, dans une situation très grave, quand je vois bah, tout le mal qui se passe. Littéralement tous les jours, et je pense que si on avait fait cet entretien le week-end dernier, ça aurait été juste une autre situation que j'aurais pu évoquer. Aujourd'hui, c'est les attentats dans la Nouvelle-Zélande, mais si c'était la semaine dernière, j'aurais pu parler d'autre chose, et si c'est la semaine prochaine, très probablement, il y aura autre chose dont je pourrais parler. Donc il y a ce côté-là où tu te demandes, est-ce que c'est juste parce qu'on a plus d'accès aux informations? Qu'on a l'impression que ça se passe plus souvent ou est-ce que ça se passe plus souvent? J'arrive pas à nous situer par rapport à ça. Mais aussi, je pense quand je vois notre génération, on réfléchit énormément. C'est une génération qui priorise la santé mentale, par exemple, à une échelle de jamais vue. Tu vois, donc il y a quand même un côté qui est vraiment plein d'espoir, où les gens réfléchissent, en fait. C'est que ça que je peux dire comme mot. On réfléchit énormément, on se remet en question, on s'autocritique, on se critique entre nous. Et donc, si ce côté-là arrive à être le côté le plus nombreux, je pense qu'on pourrait voir un avenir beaucoup mieux que ce qu'on a en ce moment. En tout cas, c'est ce que j'espère.
Toi, ton avenir, tu le vois comment?
Quelque part entre ma crainte et mon rêve, donc soit d'être dans une galère perpétuelle, où je cherche tout le temps à avoir l'argent ou à avoir plus, mais ce que je voudrais, c'est pouvoir être dans une situation où j'ai pas besoin d'être riche, mais où j'ai pas besoin de m'inquiéter non plus, et où je peux prendre des décisions que j'ai envie de prendre. Quand je parle des enfants, par exemple, c'est vrai que moi, je n'ai pas envie encore d'avoir des enfants. Mais ce qui est sûr, c'est que même si j'avais cette envie, je n'ai pas l'argent, en fait. Je ne pourrais pas financer ça. Et donc, l'idée que je puisse arriver un jour à un stade où j'ai envie de ça, mais ma situation financière ne permet pas ça, pour moi, c'est très grave. Ce n'est pas que l'histoire des enfants, mais le fait d'avoir envie de voyager ou de faire certaines choses qui coûtent beaucoup et devoir... hésiter. Donc mon avenir tel que je veux qu'il soit, c'est ne pas avoir à me poser des questions à part qu'est-ce que j'ai envie de faire en fait, et puis le faire. Voilà.
Du coup, tu veux des enfants.
A priori, oui, j'ai toujours considéré ça comme quelque chose que je veux, mais ça aussi, c'est des questions que je me pose. Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que ça vient de l'environnement, de la société qui m'a fait croire que c'est quelque chose que je veux? Mais je pense bien.
Est-ce que tu as une religion ou une démarche spirituelle?
Oui, je suis chrétienne, oui. J'étais élevée dans ça par mon père, avec mon frère. Et donc, c'est des principes qui sont très importants pour moi. C'est dommage parce que je trouve qu'aujourd'hui, tu es un peu obligé de justifier pourquoi tu es religieux. Parce qu'il y a tellement enfin, de n'importe quoi que les gens font au nom de la religion et tu es obligé de dire que non, c'est pas ça. Pour moi, ce n'est pas une façon de justifier des préjugés contre les gens. Ce n'est pas dans cet aspect-là du tout. Ça ne fait pas partie pour moi. Mais c'est vraiment des principes qui sont très importants. Comment on s'occupe des uns et des autres. Comment on treat each other. Ce genre de choses, c'est quelque chose que j'essaie vraiment de suivre. Le fait d'être honnête, de ne pas mentir, de ne pas faire des choses qui blessent les autres, c'est super important pour moi.
Quel est ton rapport à l'amour, aux notions de couple et de mariage et d'engagement?
Je pense que j'en dirai faire ce qu'ils veulent. C'est vraiment aussi simple que ça. Il y a des choses que je sais que moi, je ne supporte pas ou que je peux supporter, mais je dirai jamais à quelqu'un d'autre de faire barrer. Je dirais vraiment, chacun n'a qu'à suivre son cœur et faire ce qu'il a envie de faire. Pour tout, mais surtout pour cette question d'amour.
Et toi, est-ce que tu es à l'aise avec l'engagement, avec justement la notion de couple, de se marier, tout ça?
Ah oui, je suis à l'aise avec ça. Pour moi, ça me semble être une étape naturelle. Si tu as ce genre de feeling pour quelqu'un, d'éventuellement enfin, vous mettre en couple et puis après de vous marier. Après, si quelqu'un n'a pas envie de se marier, comme j'ai dit, ça ne me regarde pas. Mais pour moi, oui, très à l'aise avec ça.
Est-ce que tes parents ils sont au courant de ta vie amoureuse? Est-ce qu'ils s'impliquent dedans? Est-ce que par exemple ils te mettent la pression pour que tu t'installes, pour que t'aies des enfants et tout ça?
Non, ils ne me mettent pas cette pression. C'est beaucoup moins courant aux États-Unis. Je peux pas être en Afrique et comparer ce qui se passe là-bas avec ici. On dirait presque que ça n'existe pas si on compare les deux. Donc, ils me mettent aucune pression par rapport à ça. Au contraire, la dernière fois que quelqu'un de ma famille m'a parlé de ça, peut-être c'était ma tante il y a quelques ans, elle me disait juste, en tout cas, ne te mets pas trop vite en couple, ne te marie pas trop. Elle me disait qu'elle voudrait que j'aie des relations pour avoir une expérience en couple, quoi, pour vivre et pour voir ce qui me plaît et ce qui me plaît pas. Donc, si jamais j'ai eu une pression, et ça, c'était pas une pression, ça aurait été dans l'autre sens, en fait, de ne pas trop me précipiter. Et s'ils sont au courant pour ma situation amoureuse, bah non, je leur parle pas de ce genre de choses. Je ne sais pas, bah, quand j'étais petite et eux, ils avaient des copains et copines, ils m'en parlaient pas. Donc, je pense que ça a juste créé une situation où on n'en parle pas trop. Mon frère, beaucoup plus. Comme mon frère, il a une copine, tout le monde est au courant. Normalement, on la connaît et tout. Mais c'est aussi le fait d'être à l'étranger parce que bah, quand j'ai eu des copains, c'était à l'étranger aussi. Du coup, il n'y avait même pas la possibilité qu'ils se connaissent. Peut-être si je les voyais tous les jours, il y aura l'occasion de parler de ça. Mais quand j'arrive aux États-Unis pour un mois ou pour 2 semaines, c'est pas. Peut-être on me demande et puis on passe à autre chose, quoi. On reste pas là-dessus.
Sur notre génération, tu sais, on entend beaucoup qu'on a la bougeotte, qu'on est instable et tout ça. Est-ce que selon toi, c'est un signe d'immaturité générale de notre génération?
Non, pas du tout, quoi. C'est juste qu'on a des circonstances différentes. Qui est quelque chose que bah, j'arrive pas à comprendre que les gens ne comprennent pas, en fait. La société telle qu'elle est aujourd'hui, c'est juste, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu du passé. Je pense qu'aujourd'hui, la vie est la plus différente qu'elle puisse être de toutes les autres générations. Et par là, je veux dire, par exemple, on change de boulot, mais parce que ça a évolué, en fait, la notion de travail. Avant, c'était vraiment, tu fais quelque chose, tu le fais pendant 30 ou 40 ans pour après prendre la retraite de ce poste-là. Même les sociétés cherchent à changer. C'est pas que nous qui voulons changer. Il y a toujours des nouvelles qui se créent aussi. Du coup, bah, quand il y a de nouvelles sociétés, bah, forcément, il faut que quelqu'un aille travailler là-bas. Donc, normal qu'on change de travail. Mais non, je ne pense pas que c'est un signe d'immaturité. Je pense que c'est juste notre génération a plus cette idée qu'on peut faire ce qui nous plaît. On a plus cette idée de suivre ce qu'on a envie de faire. Et je comprends parfaitement pourquoi ça peut être bizarre pour nos parents, surtout en fonction du pays. Il y a beaucoup de pays où, déjà, j'ai dit tout le temps que globalement, je pense que notre génération et celle de nos parents, l'écart est plus grand entre les deux générations qu'entre deux personnes de la même génération, de notre génération, dans deux pays différents. Je ne sais pas si tu me suis. Donc, je pense que moi et un Rwandais de mon âge, on arrive à avoir plus en commun que lui avec son daron et moi avec ma mère, tu vois. Et du coup, je pense juste on est dans une situation où on a cette luxe, probablement, ou ce luxe, probablement à cause de leur travail, justement. Et ils devraient en être contents. C'est à force d'avoir galéré pour nous et de nous avoir donné certaines choses qui fait que, bah, on a grandi avec cette idée que bah oui, on peut faire ce qu'on veut. Et je comprends, beaucoup d'entre eux n'ont pas eu cette occasion. C'était vraiment survivre, en fait. Et c'est ça, nous, on est une génération qui vit. On n'est pas une génération qui survit. Enfin, astérisque, parce que oui, quand même, mais généralement, on est une génération, en tout cas, qui cherche à vivre.
Du coup, ce serait quoi la plus grande force de notre génération?
Pour moi, c'est cette idée de, enfin, comme j'ai dit, de faire ce qu'on veut, mais aussi de se remettre en question. J'adore ça. Tout le monde autour de moi, tous mes amis, bah, on est en train de unpack déjà nos enfances. On cherche à comprendre pourquoi on est comment on est aujourd'hui. On cherche à. Si tu es sur Twitter, tu vas voir les tweets qui ont le plus de retweets. Il y en a tellement où c'est quelqu'un qui décrit une habitude chez lui ou bien une caractéristique chez lui. Et que ça a autant de retweets parce que les gens se reconnaissent dedans. En fait, ça, vraiment, j'adore parce que tout commence par là. Si on arrive déjà à se reconnaître, il y a la possibilité d'évoluer, tu vois. Alors que, bah, désolé, mais nos parents, tu leur dis quelque chose par rapport à eux, ils font genre, ils n'ont jamais fait ça, ils savent pas de quoi tu parles et tout. Mais nous, vraiment, on a cette capacité de se remettre en question, que j'aime bien.
Si tu devais imaginer le super-héros de notre génération, il serait comment?
Bah, je pense que ça va être un gamin de 14 ans qui a fait un tweet ou un post sur Instagram et qui a pu vraiment éradiquer la pauvreté avec un tweet. Ça résume tout, toute notre génération.
Ouais. Et donc, ce serait un homme ou une femme?
Une fille, bien sûr.
C'est quoi ta philosophie de vie?
Vivre. C'est aussi simple que ça. Que chacun fasse ce qu'il a envie de faire. Enfin, tu remarqueras que je répète ça beaucoup, mais parce que pour moi, c'est juste important qu'on regarde la quantité de temps qu'on passe sur cette terre. Pour moi, c'est inconcevable qu'on passe notre temps à faire autre chose, en fait. Et je comprends qu'après, il peut y avoir des besoins qui nous poussent à faire des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire, mais qu'on essaie quand même de minimiser ça et de, quand même temps, en parallèle, faire des choses qui nous plaisent. Parce que le cliché, comme on dit, personne qui est sur le point de mourir se pose la question de pourquoi j'ai pas plus travaillé ou j'ai pas plus fait ceci ou cela. Mais c'est toujours des questions, des désirs profonds que la personne n'a pas pu réaliser. Donc voilà, qu'on réalise tous nos désirs.